Nous pouvons prendre quelques instants pour une nouvelle discussion. Est-ce qu'il y aurait des questions, réactions?
Bon, nous, on était saisis par chaque ministère. Hein. Donc, dès qu'il y avait un sujet, il y a des responsables des affaires publiques, vous le savez, dans chaque grand groupe, français comme international. Donc, eux, ils réagissent immédiatement. Et ils prennent rendez-vous immédiatement avec le Conseil national du numérique pour expliquer. Ils font venir des gens des États-Unis. Ils n'hésitent pas à mettre d'énormes moyens pour venir expliquer avec des gens très compétents techniquement qu'en fait, voilà, ils ont raison. Et notamment, on a eu beaucoup de discussions sur l'algorithme de Google et sur la transparence de cet algorithme sur lequel apporter un certain nombre de recommandations dans la partie 2 du rapport Ambition numérique. Et la question de la transparence, c'est pas que la transparence des CGU, hein, c'est la transparence de l'algorithme dont on parle dans la loi. On a décortiqué l'algorithme avec eux. Et en fait, après, c'est des visions différentes. On sait bien qu'aux États-Unis, par exemple, ce que dit Google sur son algorithme, c'est de dire bon, au démarrage, l'algorithme n'était fait pour classer les informations, l'algorithme n'était fait au moment de l'article de recherche qui était sorti sur le PageRank que sur des critères de popularité du site. Plus on clique sur le site et plus le ranking est élevé, etc. Donc des critères de, je simplifie beaucoup, mais de popularité des sites. Aujourd'hui, on sait qu'il y a la moitié des critères dans l'algorithme qui viennent de ça, et la moitié des critères qui sont issus du comportement de navigation de l'individu. Et donc, si on est à deux endroits différents, on peut avoir deux informations différentes. Vous pouvez faire l'exercice. Ou ça pose des questions de liberté d'expression. Hein. Si, par exemple, vous êtes dans des élections américaines, vous êtes démocrate et que vous lisez beaucoup de contenu démocrate, l'algorithme, comme vous, dans votre navigation, vous êtes, c'est ce qu'on appelle l'enfermement, hein, vous êtes plutôt lecteur de ce type de contenu, eh bien, va essentiellement vous présenter ce contenu-là. Donc, si on pousse le raisonnement un peu à l'extrême, on peut imaginer ne plus penser qu'il existe autre chose que ce vers quoi on pense, enfin ce qu'on lit. Hein. Et donc vous avez, je ne vais pas rentrer dans ce, mais vous avez une très bonne recherche d'Epstein en 2015 qui a sorti un papier sur l'impact de Google, en tout cas des moteurs de recherche, sur le vote des Américains. Il a fait des expérimentations, il montre que sur les indécis, eh bien, la manière dont on classe les informations font bouger les indécis dans les votes. Donc il y a plein de conséquences comme ça que les gens n'imaginent même pas. Hein, c'est pareil sur Facebook. Le métier de Facebook, c'est de filtrer l'information fournie aux gens. Et effectivement, il y a un gap entre le grand public Voilà. Alors pour en revenir aux lobbies, donc tous ces lobbies sont organisés, mais les boîtes françaises aussi. Et la difficulté d'une réflexion de loi, c'est un choix de gouvernement, mais c'est de faire un compromis, hein, c'est des compromis, avec des contraintes et de temps et politique.
Justement, si vous permettez, leur stratégie à ces lobbies, c'est toujours de freiner, ou est-ce qu'ils ont une attitude plus positive de contribuer quand même à l'avancement des textes sur cette matière, notamment du numérique. Enfin, on sait très bien que les professionnels ont quand même une tendance à dire « mais c'est nous les mieux placés » et que ce qui vient devant le législateur, c'est quelque chose qui empêche de tourner en rond. Donc, ils ont systématiquement cette attitude de freinage ou pas ?
Alors, en tout cas, il y a une position toujours américaine, qui est typique de la culture américaine, qui est, on vous tape sur l'épaule et on dit, on va travailler avec vous. Ils sont très, très présents, Comment ? Non, mais sur des discussions, sur cette question, par exemple, de transparence d'algorithme, ils ont tout fait pour nous présenter, même la personne qui travaille sur l'algorithme et qui nous explique ce qu'il fait, etc. Donc, ils sont très, très présents. Après... On sait bien qu'aujourd'hui, en tout cas les grandes plateformes américaines sont confrontées à un certain nombre de juridictions, à un certain nombre de condamnations, et que ils ont un peu de mal à et que les lois évoluent aussi par rapport à ça. Hein. Mais il n'y a pas que les Américains, hein. Il y a les groupes français, il y a les startups françaises, il y a l'Asie aussi qui est un vrai souci. Des groupes qui s'implantent en France, qui pareil font du lobby, etc., etc. Mais ça, je dirais, c'est vrai dans tous les domaines du droit, les lobbies. C'est... Mais là, bon, moi, je suis plus académique, mais je crois que ce qui est important lorsqu'on réfléchit à des textes de loi, c'est de travailler, ne serait-ce qu'avec des chercheurs dans le domaine des sciences dures, quoi, hein, des gens de l'INRIA, des gens de l'Institut Mitélécom sur des parties techniques, pour comprendre ce qui se passe, me semble très important. Et pour vous dire, on avait proposé dans une des recommandations du Conseil national du numérique de créer un corps d'algorithmistes qui serait, avec des formations dédiées, qui seraient des gens qui seraient bons en droit, mais bons aussi en culture technique sur ces questions-là, auxquelles des juridictions pourraient faire appel pour étudier ces questions complexes. Voilà, c'est-à-dire, et peut-être qu'il faut imaginer aussi, hein, là je lance des appels, mais des doubles cursus peut-être, ou des cursus en tout cas où il y a des parties plus techniques, hein, j'en sais rien. Voilà.
Peut-être un début de réponse à la question que vous posiez sur l'attitude des lobbies, sur est-ce qu'ils sont là principalement pour freiner ou pour participer à la rédaction du texte. Je me suis fait la remarque tout à l'heure dans l'exposé, le premier exposé sur l'approche légistique et politique. Il y a eu combien d'articles rajoutés pendant la navette parlementaire? Mais c'est extrêmement important. Il y a plusieurs dizaines d'articles. Voilà. Bon, c'est énorme. Donc le texte a pris 100% en tout cas en nombre d'articles. Après, je sais bien que tous les articles n'ont pas la même portée normative, mais enfin, c'est quand même pas normal, surtout que notre système parlementaire est très théoriquement rationalisé. Ces amendements, ils peuvent venir d'origine gouvernementale ou d'origine parlementaire. Un texte qui prend une telle ampleur.
Du nombre d'articles, pour moi, est aussi dû à ce vrai problème sur ces questions du numérique de niveau de compétence. Hein. C'est-à-dire que les parlementaires sont partis aussi sur des sujets très grand public, avec peu d'impact quand même économique, hein, et qui sont plutôt des sujets de communication que des sujets de fond de transformation de la société numérique, et qu'ils ont rajouté en disant « j'ai participé à la loi pour une république numérique ». Et donc, on ne traite pas le fond parce que c'est trop technique, trop compliqué, personne n'a envie de s'engager sur ces questions sauf cette dizaine de députés, et du coup on crée des amendements qui sont sur des petites parties, quoi, quand même. Le e-sport, bon oui, c'est bien, mais voilà.
Je crois que monsieur Gomez aimerait réagir aussi.
Non, c'était simplement pour rebondir sur l'un de vos derniers propos. Vous évoquiez d'abord les travaux et puis sur l'éthique des technologies. Et je trouve en effet que cela est très important. Il faudrait que l'éthique intègre absolument toute évolution. D'ailleurs, quelquefois, c'est par des raisons d'éthique que l'on peut prendre au piège ceux qui s'opposent à certaines évolutions. Et là, je vais vous citer encore un exemple qui est l'affaire Yahoo. Eux, ils disaient, nous sommes très respectueux de l'éthique, nous interdisons la vente d'animaux vivants sur le site, le fameux site des enchères. Nous interdisons ceci ou cela. Et alors, je leur ai dit, mais attendez, il vous faudrait très peu donc pour interdire la vente d'objets nazis, qui rappellent le nazisme. Alors ça les a un peu surpris quand même, parce que c'est vrai qu'ils interdisent. Alors ils interdisaient la vente de la culotte de Madonna. Je me souviens encore de ça. Donc les animaux, d'accord, je peux comprendre, et d'autres articles. Et alors, en lisant bien leur site d'enchères et leur charte d'éthique, je leur dis, mais attendez, tout ça, alors un petit peu, je leur disais, un tout petit effort, et vous verrez, vous atteindrez le niveau d'éthique suprême. Ils étaient surpris, à tel point qu'à la fin de l'année 2000, ils ont changé complètement leur fusil d'épaule. Alors qu'ils avaient dit que jamais ils ne céderaient devant un juge français, je ne sais pas si vous vous en souvenez, au début de l'année 2001, ils ont décidé de changer de modèle économique. Alors ça m'avait fait sourire. Moi, peu m'importait à la limite, hein, la raison pour laquelle ils allaient de fait accepter ma décision. Ils avaient dit que, alors que les enchères jusqu'à présent étaient libres d'accès, demain, elles seront soumises à un droit de passage. Et donc, je pourrais ainsi maîtriser l'accès aux enchères. Et de cette façon-là, ils ont éliminé tous les objets qui avaient fait l'objet de critiques, en tout cas. Mais comme quoi, parfois, il faut les prendre à leur propre piège. Mais ça suppose aussi, vous avez insisté, et je le maintiens, il faut véritablement accepter de lire complètement les choses, s'investir dans un dossier. La superficialité dans le domaine du numérique n'a pas sa place. Parce qu'on prend des risques majeurs, parce qu'effectivement, des groupes de pression ou pas, d'ailleurs, pression, ce n'est pas nécessairement négatif dans l'acception, mais les groupes de pression entendent quand même, a priori, même s'ils participent, tirer, je ne sais pas, quelque chose de cette intervention, quoi que ce soit. Et donc, moi, je veux bien qu'ils tirent quelque chose, mais à condition que ce soit dans le respect des valeurs communes. Et quelquefois, on les prend au piège. Dans l'affaire Front 14, j'avais fait pareil avec un hébergeur aux États-Unis. Eh bien, lui, il a exécuté tout de suite, sans même décision judiciaire, etc. Ce qui prouve que parfois, il faut les prendre au piège. Et je leur avais dit, écoutez, vous ne trouvez pas inadmissible que vous diffusiez en réseau des scènes de torture sur des personnes de couleur, par exemple. Alors, certaines scènes étaient sans doute des scènes fabriquées, mais elle frappait quand même le regard, l'esprit. Mais on voyait par exemple un feu avec des charbons qui brûlaient, et puis un noir qu'on jetait dessus, etc. Alors je ne dis pas que ce fut la réalité, j'en sais rien, mais c'était pour marquer. Et donc je leur ai dit, vous acceptez cette diffusion? Et bien blanc, le site a été chassé. Vous voyez, comme quoi parfois il faut savoir influencer aussi, mais d'une façon assez presque contraignante, sans contrainte. Vous voyez, c'est un peu toute la contradiction.
Mais c'est pour ça que travailler sur les questions d'éthique est vraiment très intéressante aujourd'hui, parce que c'est un autre moyen de faire évoluer les choses tant qu'il n'y a pas de législation. Voilà. Et tous les contenus sur le web, parce qu'il y a une déviance, c'est-à-dire, c'est pas forcément intentionnel au démarrage, hein, c'est-à-dire ces technologies développent des systèmes dont les acteurs eux-mêmes ne sont pas forcément au démarrage, enfin qu'ils n'ont pas fait intentionnellement au démarrage. Je prends l'exemple des algorithmes aujourd'hui. Il y a des algorithmes dans le domaine de l'assurance, par exemple avec le big data, qui sont discriminatoires dans les faits. Mais ce n'est pas intentionnel, c'est simplement que les gens qui utilisent, les grandes entreprises, en particulier certaines françaises, qui utilisent ces algorithmes, ne maîtrisent pas tout à fait le principe de l'algorithme. Donc ce n'est pas intentionnel. Et donc il faut aller expliquer, décortiquer ces technologies avec des scientifiques et aller regarder les points de et il faut aussi... Mais l'idée de l'agence de notation, c'était ça, c'était de faire noter par la foule la réputation de Google, de Facebook, mais des boîtes françaises, etc., de manière indépendante. C'était ça l'idée. Et alors, juste un dernier point, c'est qu'on a été un certain nombre de la CERNA à aller voir aussi la ministre pour qu'il y ait un comité d'éthique, créer un comité d'éthique sur les questions du numérique, comme il y a un comité de la bioéthique dans le domaine médical. Alors voilà, bon, on se heurte toujours aux questions de on ne va pas créer un xième comité, etc. Mais on continue quand même à poursuivre cette idée parce que ça nous semble intéressant d'avoir un recours au-delà de la loi qui est aussi sur ces questions d'éthique qui sont très complexes, hein, mais quand même d'avoir ces réflexions nous semblent intéressantes. Voilà.
Une dernière réaction.
Merci. Oui, pour rebondir sur l'éthique et en particulier dans le métier d'avocat, puisque comme vous le savez, on a tendance à devenir de plus en plus ouvert à la concurrence et notamment à la concurrence des start-up. Sur cette question de l'éthique, les start-up du droit, pour que justement elles puissent garantir la qualité de leur service par rapport au service d'un avocat, ont signé justement une charte éthique et tous les acteurs se sont réunis et ont trouvé une solution pour arriver à co-construire ensemble sur ce nouveau marché du droit avec l'ouverture que donnent les nouvelles fonctionnalités d'Internet, etc., ont signé une charte éthique. Donc comme l'a très justement dit Romain Gola, c'est aussi une... justement, la bonne irréputation des entreprises via des engagements éthiques quand le droit n'est pas là pour le faire, ou alors avant de se faire taper dessus par le juge, eh bien c'est un moyen et un vecteur de confiance par rapport aux utilisateurs, et qui dit confiance dit évidemment faculté à faire plus de chiffre d'affaires, puisque quand on a confiance dans un produit, on va consommer de ce produit. Et donc l'éthique, c'est effectivement un moyen qui est là pour pallier soit à l'inexistence des lois, soit à leurs lacunes, etc. Et qui est un moyen en plus, en général, transversal, puisque les parties se sont consultées pour faire, en tout cas, cette charte éthique pour ce qui est de nos métiers, et ce qui est en général le cas dans tous les domaines. Voilà, c'était juste pour rebondir.
Mais ça ne suffit pas de mettre en place des structures qui réfléchissent à l'éthique, etc. La mayonnaise prendra le jour où, du côté des utilisateurs, c'est-à-dire de nous-mêmes, il y aura une vraie demande d'éthique et l'expression de cette demande d'éthique. À ce moment-là, on sera pris au sérieux. Ce qui est quand même regrettable, et ce qu'il faut constater aujourd'hui, c'est que malgré le fait que les médias répercutent certaines affaires, en définitive, le niveau de conscience générale des problèmes et de ces problèmes d'éthique est quand même très, très, très faible. Et cela fait justement tout le bénéfice des gens qui jouent sur cette faiblesse. Donc je crois qu'il y a des éléments qui sont difficiles à contrôler, c'est un problème d'éducation, c'est un problème de conscience. C'est vrai que le droit aussi peut aider. Moi, je l'ai toujours plaidé la chose dans le secteur de la protection des données personnelles. J'ai toujours dit, c'est une formule qui a souvent été reprise par d'autres, d'ailleurs, vive le contentieux, vive les affaires, vive les complications, parce que, certes, il y a une condamnation d'une entreprise, la condamnation sera faible, on est tout à fait d'accord, mais c'est tombé sur elle, les autres font attention. Et à travers le contentieux, les autres entreprises, bien entendu, vont dire « la prochaine fois, c'est nous ». Mais à travers les contentieux, il y avait aussi les clients, par exemple, qui commençaient à découvrir que ça pouvait être aussi eux et qu'on faisait ça dans leur dos. Et ça, le contentieux, il peut lever justement le niveau de conscience de ce problème éthique. Mais ça pose vraiment des problèmes graves aujourd'hui de conscience des problèmes et comment faire en sorte que le niveau d'éthique générale de l'opinion publique évolue.
Bon, tout ça nous prouve que dans le numérique, la confiance, les conditions de création de la confiance sont essentielles. Et le droit est un instrument parmi d'autres, mais il faudra les mobiliser tous ensemble. Bon, tout ça nous promet encore de beaux développements pour cet après-midi, mais il est peut-être l'heure de reprendre des forces. Donc, je suspends les travaux, je vous invite à vous rendre dans le patio pour une pause déjeuner. À tout à l'heure.